voilà, merci de votre invitation. Toujours un plaisir pour moi de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Et donc ce soir, on m'a demandé de réfléchir avec vous sur la question de la liberté, liberté d'expression en lien avec le protestantisme. Donc oui, je suis pasteur théologien protestant. Et je voudrais peut-être commencer en disant que le thème de la liberté est à un des fondements de la réforme. Vous savez que l'année prochaine, en 2017, nous célébrerons les 500 ans de la réforme. Trouver une date pour fêter ou pour symboliser le commencement d'un mouvement, c'est toujours quelque chose d'un petit peu arbitraire. Alors, je ne sais pas qui. La tradition a retenu comme date symbolique du commencement de la réforme le 31 octobre 1517, jour où, là encore, selon la tradition, il semble que ce soit un petit peu légendaire, Luther aurait affiché ses 95 thèses sur la porte du château de Wittenberg, ville dans laquelle se trouvait son couvent. Ce qui est vrai, c'est qu'en octobre 1517, Luther a publié donc son traité contre les indulgences. Et ce qui a fait que dans ce traité contre les indulgences, sa propre théologie n'était pas encore tout à fait arrêtée, et il ne protestait pas tant contre les indulgences, comme il le fera plus tard, il ne protestait pas tant contre le purgatoire, comme il le fera plus tard, mais contre les excès du commerce des indulgences qui étaient pratiquées à son époque. Donc je dirais que c'était une protestation contre les excès qui rentrait tout à fait dans le cadre de la pensée de l'Église de cette époque-là. Bon, mais vous savez que quand Luther a écrit cela, il y avait un élément radicalement nouveau. Alors, je vous proposais plusieurs dates pour commencer la réforme. Et d'ailleurs, une date qu'on aurait pu situer, qui est peut-être un des vrais commencements de la réforme, c'est pas 1517, mais c'est peut-être 1492, par exemple, l'impression de la première Bible par Gutenberg. En effet, vous savez qu'avant Luther, d'autres, Janus à Prague, Wycliffe en Angleterre, avaient essayé de réformer l'Église, et très simplement, c'est qu'ils ont été arrêtés, cantonnés, simplement. Alors que Luther, quand il a commencé à écrire son premier texte, donc son traité sur les 95 thèses sur les indulgences, qui était, comme je disais tout à l'heure, encore relativement pas trop en réaction, Gutenberg était passé par là, et des dizaines de milliers de son traité a été diffusé dans l'année qui a suivi, et ce traité a reçu un engouement, une réception absolument énorme de la part de la population allemande, qui s'est reconnue dans ses propos de Luther, et donc c'est une des raisons pour lesquelles on situe le 31 octobre 1517 comme fond de la réforme. D'autres historiens disent, on aurait pu aussi choisir par exemple le 10 décembre 1520, c'est quoi? C'est le jour où, donc, Luther, après la publication de ses 95 thèses contre les indulgences, il y a eu des protestations, et puis du coup, il s'est un peu enhardi, il a commencé à écrire un certain nombre de traités majeurs, son traité à la monnaie allemande, son traité sur la liberté chrétienne, qui ont commencé à critiquer sérieusement l'Église, et Luther, le pape, Léon X, a envoyé à Luther une bulle d'excommunication. Et le 10 décembre 1520, publiquement, Luther a brûlé la bulle d'excommunication. Alors là, il y a aussi, je dirais que la rupture avec Rome, ne pas accepter l'excommunication qui lui était adressée, là on peut considérer que c'est aussi un commencement de la réforme. Et moi, je vous propose encore une troisième date, qui est le 18 avril 1521. Donc, 18 avril 1521, c'est le jour de la guerre de Worms. Alors, c'est pour ça. Donc, quand Luther a brûlé cellule d'excommunication, le pape a voulu tout de suite se débarrasser de Luther, et l'empereur, si ça fait Charles XV, a voulu mettre un peu des formes, et a dit d'abord, je veux qu'il y ait un procès, d'une certaine manière, en bonne et due forme, et donc il convoque une diète. Donc une diète, c'était une assemblée de tous les responsables civils qui étaient présidés par l'empereur, Charles XV, dans lequel il y avait aussi le représentant du pape qui était là, et Luther est convoqué à cette diète pour répondre de ses écrits. Et donc Luther va à Worms, on lui pose deux questions, la première question c'est « Es-tu effectivement l'auteur de ses écrits ?» Luther dit oui, et deuxièmement, on te demande de te rétracter. Et là, Luther demande et obtient 24 heures de réflexion. Et donc, il passe là-dessus 24 heures. Et le lendemain, donc, le 18 avril 1521, Luther dit « Je ne peux vous rétracter » et il dit effectivement « Ma conscience est captive de la parole de Dieu. Je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. » C'est que ce jour-là, imaginez quand même, lui, petit moine d'un couvent secondaire de Wittenberg, il a en face de lui l'empereur, Charles Quint, et représentant du pape, Léon X, qui tous les deux lui disent « Bon, frère Martin, c'est bien entendu ce que tu fais, mais tu vois bien que ces écrits sont en train de jeter le trouble dans l'Empire, alors maintenant c'est bien entendu, tu ramasses tout, tu te rétractes, on n'en parle plus, tu rentres dans ton couvent, et tout ira bien. » Et Luther, contre le pape et l'empereur, dit « Je ne peux, car ma conscience me dit que j'ai raison. » Il n'est pas juste de parler contre sa conscience. C'est qu'il a érigé sa conscience en opposition au pape et à l'empereur. Et ce jour-là, à mes yeux, au-delà même de la réforme, on est rentré dans la modernité. On est rentré dans la modernité le jour où, l'homme fait plus confiance à sa conscience qu'aux autorités les plus légitimes, civiles et religieuses, qui lui ordonnaient de se rétracter. Je veux dire, derrière cet appel à la conscience, il y a quelque chose qui a forgé, je dirais, l'esprit protestant. Hein, l'esprit protestant, et ça a forgé ce qu'on a appelé, quand c'est dérive, l'individualisme protestant. Hein, l'individualisme protestant, et qui est peut-être que dans l'ADN du protestantisme, il y a cet appel à la conscience et cet appel que certaines personnes veulent dire ce que doivent penser. Le président de la Fédération protestante de France aujourd'hui me disait « Je ne peux pas dire une parole publique sans pouvoir le dire en disant « Au nom de quoi parles-tu ? Moi, si je protestant, je ne suis pas d'accord avec toi, alors tu n'as pas le droit de parler en mon nom. » Celui qui dit quelque chose, il y a des gens qui disent « Au nom de quoi parles-tu en mon nom ?» Ça, c'est la liberté de conscience dans ces dérives. Je dirais que, en plus, cette concentration sur la liberté de conscience est accentuée en France, par le fait que, en France, le protestantisme est minoritaire. Et, en dehors de toutes les formes religieuses, les minoritaires ont toujours été des gens qui ont été attaqués à la liberté. Parce que les minoritaires, depuis qu'ils sont tout petits, ils testent au biberon cette condition de savoir que la majorité n'a pas toujours raison. Donc il y a une espèce d'exigence posée sur le sujet, plus que sur les paroles qui viennent des autorités catholiques. Alors vous voyez que donc il y a une sorte de proximité entre la liberté et le protestantisme. Alors, quand on dit ça, on dit « Ok, c'est très beau, c'est très bien », mais le problème, c'est que la philosophie est passée par là, et un certain nombre de penseurs critiques sont passés par là et ils nous ont appris que la liberté, c'était un peu plus compliqué que ce qu'on croyait à première vue. Je veux dire par là que dans la vision traditionnelle, bon, Aristote définissait l'homme comme étant un animal doté de raison, doué de raison. Hein. C'est-à-dire que c'est cette image un peu idéale en disant que l'homme a sa raison, avec sa raison il décide, et ensuite il fait ce qu'il a décidé. Ça, c'est, voilà, c'est l'image un peu pure et marquée de ce que serait l'humain. Il s'agit dit que, comme c'est que cette image d'un homme d'une liberté pure et parfaite a été très sérieusement remis en question par, par ce qu'on a appelé, ce que les autres chroniqueurs appelaient les maîtres du soupçon. Et les maîtres du soupçon, c'était ces grands auteurs du 19e siècle qui ont interrogé la capacité de l'humain à être libre. Hein. Alors, en général, on cite Freud, on cite Marx, on cite Durkheim, qui ont dit, alors Durkheim dit l'homme n'est pas libre mais choisi en fonction des déterminismes sociaux, Marx dit l'homme n'est pas libre mais choisi en fonction de sa classe sociale et de déterminisme économique, et Freud dit l'homme n'est pas libre mais choisi en fonction des traumatismes de sa petite enfance. Donc, on sait bien en nous-mêmes que nous ne sommes pas simplement des êtres purs et parfaits. Et nous savons bien aujourd'hui que l'état de nature de l'humain, c'est pas l'état de liberté, mais l'état de nature de l'humain, c'est l'état de conformisme. Je veux dire, voilà que on dit la liberté, il y a une espèce de caricature de la liberté, ce que j'appellerais aujourd'hui la liberté adolescente. Hein. La liberté adolescente, c'est je revendique la liberté de pouvoir faire exactement la même chose que les autres, d'écouter la même musique que les autres, de manger les mêmes choses que les autres, de avoir les mêmes loisirs que les autres et d'avoir les vacances au même moment que tout le monde. Mais je revendique cette liberté. Je revendique la liberté de pouvoir exactement faire comme mon voisin. Ça, c'est un peu une caricature de la liberté telle qu'elle est conçue aujourd'hui dans notre société, où souvent les revendications de liberté ne sont que les revendications du plus bas, du plus plat des conformismes. Hein. Et je veux dire, qu'est-ce qui fait que la liberté, c'est justement, c'est arriver à sortir de ces déterminismes qui pèsera en fonction de mon âge, de ma classe, de mon éducation et de l'environnement dans lequel je suis, je dirais. Et nous avons besoin, d'autant que nous sommes tous totalement formatés par l'environnement qui est, dans lequel on est. Je vais raconter une petite anecdote à 10 ans. Quand j'avais 15 ans, donc j'avais 15 ans en 1970, et alors, et pour la première fois, ma maman m'a donné, je prends un peu d'argent, elle m'a dit, j'achète un pantalon, j'avais besoin d'un pantalon. Je faisais un magasin de pantalon, et à ce moment-là, le marchand de pantalon m'a dit, est-ce que vous voulez un pantalon à pâte d'éléphant? C'est les pâtes d'éléphant qui étaient très à la mode à cette époque-là, on prenait en droit. Moi, je suis confus, je prends un pantalon droit. Alors, j'ai dit, pantalon droit, je dis, c'est affreux ça, pantalon droit, pâte d'éléphant, c'est pas possible, non. C'est inimaginable de porter autre chose qu'un pantalon à pâte d'éléphant. Donc j'ai acheté un pantalon à pâte d'éléphant. Parce que je ne pouvais pas imaginer d'avoir un pantalon autrement qu'à pâte d'éléphant. Aujourd'hui. Donc je regarde la façon de la dire, je me dis, c'est pour ça que j'ai dit plus, je suis achevé. Ça veut dire que, qu'est-ce qui fait qu'un pantalon est beau ou pas beau? Eh ben, je veux dire que, c'est complètement tributaire de, c'est pas objectif, vous voyez, s'il était. Donc, je voulais être libre d'acheter le pantalon que je voulais, et en fait, c'est exactement, le pantalon que la société me demandait d'acheter, et de trouver beau exactement ce qu'on me disait, être beau. Vous voyez, donc, la notion de liberté, quand on, mais dit comme ça, ben c'est facile, oui, liberté, on est tous pour la liberté, mais quand on essaie de creuser un petit peu, de gratter, en disant, qu'est-ce qui fait qu'on est libre ou qu'on n'est pas libre, alors là, c'est une autre paire de choses, une autre paire de manches, parce que nous avons besoin d'entendre que nous sommes tous, que nous le voulions ou que nous ne le voulions pas, nous sommes formatés par le monde et par la société dans laquelle nous vivons, et qui nous formate à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau de la pensée, au niveau des goûts, au niveau vestimentaire, au niveau, enfin, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que nous le pensons, qui indique que, voilà, que les valeurs de la société étaient comme un gaz inodore, incolore et sans saveur, qu'on vit mal sans s'en rendre compte. Bien, il faut que nous soyons, si nous sommes lucides, il faut que nous soyons conscients que, oui, nous sommes profondément marqués, influencés par les valeurs, les goûts de notre société et du milieu, que ce soit le milieu social, le milieu religieux, du milieu dans lequel nous vivons. Et dans ce moment-là, à partir de là, quand on parle de liberté, d'accord, et puis quand on réfléchit, on s'aperçoit que la liberté, comme c'est ce n'est pas une liberté naturelle, la liberté c'est un défi, c'est-à-dire celui qui veut vraiment être libre, il faut savoir que ça peut nous conduire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que son pense. Et à ce moment-là, on revient à Luther, et Luther disait... je ne peux me répéter en rien, car il n'est ni juste ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Mais avant cela, Luther a dit, la conscience est captive de la parole de Dieu. C'est-à-dire que, après tout, au nom de quoi Luther éliminerait-il sa conscience contre les autorités civiles et religieuses de son époque? Je veux dire, après tout, je ne serais pas un certain orgueil à vouloir croire qu'on a raison contre tout le monde. Hein, et donc Luther, s'il est tout seul simplement, alors oui, ça reste de l'orgueil, mais Luther dit justement, parce que ma conscience, ce n'est pas simplement une conscience que j'ai parfaite comme ça, là, qui me fait dans un univers infini, mais elle est captive de la parole de Dieu, et donc, pour Luther, c'est dans cette parole de Dieu qu'il va trouver les moyens de pouvoir déployer sa liberté. Vous voyez presque qu'il y a un paradoxe, hein. Parce que ma conscience est captive, alors je peux avoir une conscience libre, hein. La captivité, la liberté peuvent être comme ça ici en tension. Et donc, les captivantes, pour essayer de poursuivre notre réflexion, c'est-à-dire conscience captive de la parole de Dieu, alors en quoi est-ce que le fait d'être captif de la parole de Dieu peut être un facteur de liberté? Eh bien parce que, justement, dans la parole de Dieu, les grands hommes que nous trouvons dans les Écritures ont tous en commun, justement, d'avoir été en rupture par rapport au milieu dans lequel il existait, d'avoir été en décalage. Donc, de ne pas se conformer au temps présent qui était leur temps présent, hein, mais d'être en rupture. J'ai une rate au formel, j'ai reconnu le passage de l'Épître aux Romains, Romains 12, hein, où dans l'Épître aux Romains, dans le plan de l'Épître aux Romains, dans les 11 premiers chapitres, Paul développe la foi, la justice par la foi, et le déploie dans différents domaines de la foi, et puis à partir du chapitre 12, il commence à partir des conséquences pratiques, et il commence à partir du 12, ce chapitre 12, sur les conséquences pratiques de la foi, en disant, ne vous conformez pas au temps présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour discerner ce qui est bon, juste et bien, etc. Ne vous conformez pas au temps présent, et donc l'acte premier de liberté, c'est de ne pas se conformer, mais ayez une intelligence transformée, une intelligence renouvelée, une intelligence différente, afin d'entendre, de discerner ce qu'est la parole de Dieu dans les situations que vous allez rencontrer. Donc, encore une fois, vous voyez, la parole de Dieu qui est cet appui qui me permet d'être en décalage, en rupture par rapport à la société dans laquelle je vis et par rapport à mon temps présent, pour pouvoir déployer ma propre liberté. Alors, je disais tout à l'heure que les hommes de la Bible ont été des hommes de non-conformisme fondamental par rapport au monde aux sociétés qui étaient les leurs. Commençons par Abraham, grand homme de la ville. Abraham, dont d'ailleurs, c'est le premier qui a eu le nom qui s'est appelé Hébreu. Le premier Hébreu, c'est Abraham. Et dans un de ses livres, Lévinas, le philosophe René de Lévinas, décortique le mot hébreu en hébreu. Donc le mot hébreu en hébreu, ça dit Ivri. Et Ivri, ça veut aussi dire celui qui est de l'autre côté. C'est-à-dire celui qui, quand tout le monde va à droite, est capable d'aller à gauche. Quand tout le monde dit non, c'est capable de dire oui ou inversement. C'est-à-dire que donc que l'hébreu, selon cette étymologie, c'est celui justement qui est capable d'être, de ne pas se conformer au monde dans lequel il se trouvait. Abraham, le minoritaire. Rabbin Samson Emmanuel Hirsch, au XIXe siècle, disait « Comment aurions-nous pu survivre dans tout ce siècle si nous n'avions appris d'Abraham le courage d'être minoritaire ?» Le courage d'être minoritaire, je vous ai dit tout à l'heure que être minoritaire, c'est justement faire appel à notre pensée, parce que savoir que la majorité n'a pas toujours raison. Et d'ailleurs, à propos de ces minoritaires, il y avait des travaux que j'ai trouvé très intéressants sur les Juifs pendant la guerre. Et il y a une sociologue polonaise qui s'appelle Nessa Matek qui a fait une étude en disant y a-t-il un point commun sociologiquement qui pouvait, dans les différents pays, faire les Juifs, ceux qui ont protégé les Juifs pendant la guerre. Et elle a dit que le seul point commun, c'est que parmi ces Juifs, beaucoup étaient des minorités, enfin des marginaux dans leur propre société villageoise, des minoritaires, hein, des gens qui n'étaient pas du courant dominant. Hein. Et parce que justement, ils avaient l'habitude d'être différents, parce qu'ils avaient l'habitude d'être minoritaires, et bien peut-être ont-ils écouté leur conscience plus que d'autres. Ça veut dire que voilà, que Abraham, dont le commencement de l'article de foi, c'est-à-dire quitte le milieu de l'idolâtrie dans laquelle se trouve Haran, la ville qu'il a quittée, l'archéologie a montré que c'était une ville dans laquelle il y avait beaucoup d'activités de culte qui se référaient aux étoiles, hein, les cultes astrologiques, astronomiques. Et vous savez, le culte des étoiles, c'est cette idée de trouver son avenir qui est écrit quelque part dans le ciel. Hein. Et si son avenir est écrit quelque part dans le ciel, le but de la religion, c'est d'essayer de décrypter les augures pour savoir qu'est-ce qui va m'arriver, quel va dire, qu'est-ce que je dois faire. C'était justement contre la liberté. Et que le jour où Abraham a quitté Haran, il a quitté justement un système religieux qui était organisé autour de sa notion de destin, essayer de repérer son destin, au nom justement d'une parole, au nom d'une marche, va vers la terre de se montrer, dit Dieu, et Abraham est parti. Il est parti sur une simple parole, donc là, il a posé un acte de liberté. Il a posé un acte de liberté, un acte de rupture par rapport à l'environnement dans lequel il était. Abraham, Moïse, ce jeune grand homme. En termes de liberté, qui a été appelé par Dieu, va libérer mon peuple, prend la tête de l'Exode, prend la tête de mon peuple pendant l'Exode. Et nous savons que tout au long de l'Exode, il y a un élément qui revient de façon récurrente, c'est le peuple qui se plaint auprès de Moïse, parce qu'il trouve que le prix de la liberté est parfois un peu trop cher. Pourquoi tu nous fais connaître le désert? Pourquoi tu nous fais connaître la soif? Pourquoi tu nous fais connaître le vide? Pourquoi tu nous fais connaître le danger? Alors qu'on est décidé en Égypte, où on était esclaves peut-être, mais on avait des marmites bien grasses. Hein. C'est-à-dire que c'est donc la nostalgie du confort de l'esclavage en Égypte contre le risque de la marche et de la liberté et qui, par définition, est un peu fragile, qui, par définition, repose sur des éléments qui ne sont pas très stables, et de dire ben, que le désert et la liberté sont préférables à la servitude, même si la servitude est accompagnée de marmites bien grasses. C'est-à-dire, c'est là encore, donc, le prix de la liberté a un prix, mais après Abraham, Moïse a été un homme de la liberté. Abraham, Moïse, je continue, Élie, les prophètes. Les prophètes, qui ont été les prophètes? Les prophètes, ce sont des hommes qui se sont érigés contre le roi, qui au nom de la justice, au nom de la compréhension de la fidélité, se sont levés seuls contre l'idolâtrie, l'injustice qui régnait dans le peuple. Donc encore, qui ont eu le courage d'être seuls et de dire la parole seule contre le roi. Et cette compréhension de la veine prophétique a été encore, je veux dire, un de ces marqueurs de liberté. Alors, Moïse et Élie, hein, c'est la loi des prophètes, c'est deux enfants. Abraham, fondateur de la foi, Moïse et Élie, la loi et les prophètes, tous ont été, à un moment ou l'autre, des exemples de liberté. Et donc, et je veux entendre que Luther, quand il a dit « ma conscience est liée à la parole de Dieu », ben, il était lié justement à une parole qui lui donnait ses commandements et ses exemples de liberté. Continuons dans la Bible, qui a été le plus libre que Jésus de Nazareth, hein, le plus libre par rapport aux religions de son époque. Alors, de nouveau, je pourrais vous citer plein de passages, quelques chapitres de l'évangile de Jean. À mes yeux, dans ma lecture des évangiles, il y a un passage qui est peut-être symboliquement qui type le mieux l'action de Jésus de Nazareth, c'est l'expulsion des marchands du temple. L'expulsion des marchands du temple qui est la remise en question d'un système religieux qui était organisé autour d'un rituel et d'un religieux confisqué par une caste de prêtres. C'est-à-dire que le temple de Jérusalem, quand Jésus sort des marchands du temple, et qu'il leur dit « ma maison sera appelée une maison de prière, vous en avez fait une caverne de bandits hein. ». Quels étaient des bandits, des voleurs de quoi hein. Dans le livre des rois, quand il y a, dans le deuxième livre des rois, chapitre 8, la très belle prière de dédicace que Salomon a faite, donc prière pour l'inauguration du temple. Pour l'inauguration du temple, à un moment, Salomon dit dans sa prière, « Seigneur, quand un étranger viendra dans ce lieu et qu'il fera monter vers toi sa parole, toi tu es aux cieux, tu entendras ta parole. » Définition du temple. Salomon, quand un étranger viendra proposer sa parole, Dieu entendra. Un lieu où tout homme pouvait poser sa parole. Quelques siècles plus tard, Jérusalem, le temple de Jérusalem, c'était une machine à exclure. Le temple était construit dans une architecture de parvis qui donnait dans les parvis, qui donnait dans les parvis, qui donnait dans les parvis. Dans le premier parvis, c'est là où se situaient les marchands du temple, c'était le parvis des païens, tout le monde pouvait y aller. On faisait du business, on vendait, on achetait des animaux, on achetait pour des offrandes pour le sacrifice. Ce parvis, on était dans un deuxième parvis, qui était marqué parvis des juifs, un panneau disait, tout homme qui n'est pas juif, qui pénètre dans ce parvis, est condamnable de mort. Réservé aux juifs. C'était ici parfois dit le parvis des femmes, parce que de ce parvis-là, on accédait dans un troisième parvis, qui était parvis des hommes. Les dames exclues, que pour les hommes. À ce parvis-là, les hommes remettaient les offrandes qu'ils voulaient faire et les animaux aux prêtres. Les prêtres entraient dans un quatrième parvis, qui était le parvis des prêtres, là où les sacrifices étaient offerts. Et puis au cœur de ce parvis des prêtres, il y avait le lieu très saint, où symboliquement se tenait Dieu, où n'entrait que le grand prêtre, la plus haute autorité religieuse, une fois par an, le jour de Kippour, la plus grande solennité religieuse. C'est-à-dire que l'architecture du temple au temps de Jésus était organisée sur le domaine de l'exclusion, selon qu'on était juif ou grec, homme ou femme, homme ou prêtre, prêtre ou grand prêtre, on montait dans le temple. Donc vous voyez bien que c'était un temple qui était organisé, dont l'architecture, dont l'organisation était organisée autour de la séparation. Ce qui est exactement l'inverse de ce que disait Salomon dans sa prière, quand un homme viendra et qui pose sa prière, tu m'entendras. Hein? C'est un sujet de confiscation du religieux, lorsque Jésus, seul des marchands du temple, c'est cette organisation-là qui vient contester. Et tout un ministère peut se poser rupture contre cette manifestation. Dans les trois évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, l'expulsion des marchands du temple est située au début de la semaine sainte. Et d'ailleurs, ce sera la raison pour laquelle Jésus sera mis à mort. Au moment de son procès, les grands prêtres convoquent des faux témoins qui disent « Nous l'avons entendu dire, il détruira le temple. » Donc c'est sur l'accusation de vouloir remettre en question le temple que Jésus a été mis à mort. Dans l'évangile de Jean, c'est pas la fin, c'est tout au commencement, Jean 2, deuxième chapitre, c'est là où se situe ce récit de l'expulsion des enfants du temple. Si Jean a placé ce récit au début de l'histoire de Jésus, c'est pour lui donner un caractère programmatique. Que le programme de Jésus sera organisé autour de la contestation de l'économie religieuse symbolisée par le temple. Jean 2, verset 4, verset, bon, chapitre 2, chapitre 3, rencontre de Jésus avec Nicodème, chapitre 4, rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Question fondamentale de la Samaritaine. La femme dit à Jésus, vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut prier, nous les Samaritains, nous disons que c'est dans le mont Gerizim, sur le lieu sacré. Où est le pays où on doit prier? Espace contre espace. Le temple ou le mont? Espace contre espace. Et Jésus dit, le temps vient où il est venu, où les vrais adorateurs ne seront ni dans le temple de Jérusalem, ni sur le mont Gerizim, les vrais adorateurs seront ceux qui adorent en esprit et en vérité. La vraie adoration de Dieu ne dépend plus d'un lieu, mais dépend d'une disposition de cœur. Et ça, c'est la rupture radicale de Jésus, rencontre avec Samaritaine, chapitre 4, chapitre suivant, chapitre 5, Jésus retourne à Jérusalem, dès la fois qu'il était là, ça c'est les marchands du temps, et quand il retourne à Jérusalem, où va-t-il? Au bassin du Bethesda, la cour des miracles, au lieu où se tenaient les anciens, les boiteux, les malades, qui étaient là depuis toujours. Le vrai lieu où se vit la foi en Dieu, mais tout en de Jérusalem, c'est la cour des miracles. Ce lieu, c'est les malades, c'est l'hôpital. C'est l'hôpital et non pas le temple, qui est le lieu où Dieu se tient. Voilà. Bon, je pourrais continuer longtemps, je ne vais pas vous faire une christologie ici, mais pour vous montrer que, là encore, si Jésus a été exécuté, c'est bien qu'il était en rupture par rapport aux catégories religieuses de son époque. Et puis enfin, dernier personnage que je vous montre ici, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul aussi qui a été lui aussi en rupture par rapport à la première église, dans la mesure où Paul a été celui qui a ouvert la foi, l'évangile aux non-juifs. Hein. Ça a été d'une certaine manière. On peut dire que Paul a été un des fondateurs du christianisme, a été, si on dit que ce qui qualifie le christianisme par rapport au judaïsme de son époque, c'est l'universalité. C'est qu'il s'adresse à tout homme et qu'il ne s'adresse pas simplement aux juifs. Il a fallu un certain nombre de ruptures pour que cette ouverture se fasse, et on sait que Paul a été en conflit avec l'église de Jérusalem, mais Paul était habité par l'esprit du judaïsme. Il faut quand même que dans la pensée de Paul, antérieurement à sa pensée, dans la biographie de Paul, au commencement de l'histoire de Paul, il y a quand même une tragédie. Une tragédie au sens propre du terme. Hein. Souvenons-nous que lorsque Paul a été saisi par l'évidence de Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait persécuter les chrétiens. Hein, bon, ce sont des Damas, il a la lumière, la voix, etc. Et qu'il lui dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et à ce moment-là, qu'est-ce que comprend Paul? Paul comprend que ce qu'il croyait en tout honnêteté faire pour Dieu, il le faisait contre Dieu. Vous imaginez la tragédie? Paul était convaincu qu'il le faisait pour Dieu. Et c'est aperçu que ce qu'il faisait pour Dieu, ce qu'il pensait faire pour Dieu, il le faisait contre Dieu. Et donc, ce fondement-là est aussi un des fondements de la théologie de Paul. C'est que Paul, s'il a pris des distances par rapport à la loi, c'est parce qu'il avait vécu les faits de la loi dans sa chair. C'est en suivant la loi qu'il a été persécuteur de Dieu. Hein. Donc là encore, il y a eu une rupture qui a été fondatrice et fondatrice en l'histoire de l'Église. Donc on voit bien que c'est parce que la Bible ne cesse de nous poser des exemples de liberté que je veux croire que c'est dans ces exemples-là que Luther a reçu la force et la structure, la colonne vertébrale pour pouvoir, à son tour, faire appel à sa conscience contre les ordres des autorités civiles et religieuses de son époque. Je voudrais maintenant, dans cette deuxième partie, c'est un peu plus court que la première, ne vous inquiétez pas, dire quelques mots sur les structures de la liberté. Et la liberté d'expression pour le protestantisme, donc j'ai parlé pas mal de protestantisme, maintenant liberté d'expression, et je vous parle de là où je suis, d'où je suis, et d'où je suis, donc je suis le directeur, je suis directeur depuis quelques semaines, mais dirigeant du Rhin Réforme. Donc du Rhin Réforme qui essaye de vivre, d'actionner une certaine liberté à travers la presse. Et on se souvient que la presse a parfois été définie comme étant le quatrième pouvoir, comme étant un des pouvoirs structurants de la démocratie. Je réfléchis, enfin, évidemment, quand on essaie de penser l'action politique à partir d'un point de vue théologique, on pense aux institutions et on pense à disons, qu'est-ce qui fonde la démocratie. Ce qui fonde la démocratie, ce qui fonde un régime démocratique, ce n'est pas que des élections. La démocratie, ce n'est pas que des élections. Ce sont des pays d'Afrique, on peut parler de la Turquie, on peut parler de la Russie, qui sont des pays dans lesquels les présidents sont élus. 100% des démocraties, c'est plus compliqué que ça. La démocratie, ce n'est pas que des élections. La démocratie, c'est des élections plus une justice indépendante et intègre, plus une liberté de la presse, plus une liberté syndicale, plus une liberté religieuse, plus des institutions intermédiaires, c'est-à-dire entre la personne et l'État, il y a des associations, il y a des libertés d'association, tout ça. C'est toute cette architecture qui fonde une démocratie. Je parlais de Moïse tout à l'heure. Lorsque Dieu appelle Moïse, je vous lis un texte. Lorsque Dieu appelle Moïse, Moïse lui dit quelle est la preuve que c'est toi qui m'appelles? Et Dieu lui dit qui suis-je, donc Moïse dit, qui suis-je pour aller auprès de Pharaon et pour faire sortir les Égyptiens, les Israéliens d'Égypte? Et Dieu lui dit « Je serai avec toi, et voilà quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. » Quel est le signe que Dieu est libérateur? Quand tu auras fait sortir d'Égypte le mon peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Le signe de liberté, c'est la liberté religieuse. Le signe de la liberté de Dieu, le signe que c'est moi qui vous envoie, que vous serez libre et vous servirez Dieu sur la montagne. Dans le livre de l'Exode, la première des libertés, c'est la liberté religieuse. Et on comprend bien pourquoi, parce que la liberté religieuse, c'est une liberté de conscience, et c'est une liberté aussi de pouvoir louer un autre Dieu que César, que le roi, que les parents, que les tyrans. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une autre autorité que l'autorité civile dans le monde. Et de fait, au début des institutions de l'Ancien Testament, il y a une distinction fondamentale, cette distinction entre le politique et le religieux. Cette distinction entre Moïse et Aaron. Je vais dire quelque chose. Moïse. Au début, donc, quand le peuple se constitue en tant que peuple, un des actes fondateurs dans l'Exode, c'est la construction du tabernacle, donc le lieu du religieux, et là, les prêtres, Moïse, Aaron et ses enfants, et les prêtres, les lévites, qui seront organisés du religieux. C'est la première différenciation on a déjà fait une distinction des pouvoirs là. Une distinction des pouvoirs entre le politique et le religieux. Et c'est tellement vrai que, vous savez que dans le premier de Samuel, le premier roi à être nommé roi, c'était Saül. Dieu s'est un peu planté là, parce que c'est pas c'est mon roi. Et quand Saül, quand Dieu a-t-il retiré sa bénédiction à Saül? À un moment, Saül a fait une faute majeure qui a fait que Dieu a retiré sa bénédiction. Et la faute majeure de Saül, c'était d'avoir offert un sacrifice. Et d'avoir pris la portion du prêtre. Vous lirez, c'est 1 Samuel 13. Les Philistins menacent Israël. Ils sont en rang de bataille, les uns contre les autres. Samuel va dire, je viens pour vous faire le sacrifice. Samuel ne vient pas. Samuel est en retard. Saül panique, il dit, les Philistins vont attaquer, je vais faire le sacrifice. Il offre lui-même le sacrifice. Samuel arrive, on a toutes les dates de le sacrifice. Et à ce moment-là, Samuel dit, Dieu te retire sa bénédiction. Pour avoir offert un sacrifice. C'est plutôt vénère comme faute. Mais non. C'est une faute très grave, parce que justement, il a opéré la confusion du religieux et du politique. Vous voyez, on parle de la séparation des pouvoirs entre les cieux du 18e siècle, mais c'est tout.
Entre moi.
Entre moi. La faute majeure, c'est Saül n'a pas respecté la séparation du politique et du religieux. Voilà, je disais bon. Je reprends. Troisième effet. Donc, quand est-ce que c'est parti des pouvoirs du 18e siècle, juridique, législative, politique. Et déjà, dès l'Ancien Testament, il y a une première séparation entre le politique et le religieux. Et puis, il y a un troisième pouvoir qui va apparaître. Et le roi, comme le prêtre, sont roi. Rejoindre l'onction. Il y a un troisième personnage qui va faire l'onction, c'est le prophète. Et qui est le prophète? Le prophète, c'est celui qui, si le religieux, c'est le roi du sacrifice, le roi, c'est le roi du politique, le prophète, c'est le roi de la parole. Et c'est celui qui va dire une parole de contestation chaque fois que le roi ou le prêtre vont dériver par rapport à la vocation qui leur a été adressée. Le pouvoir de remise en question. Et les sages qui ont lu, qui ont étudié dans cet testament, ils ont dit, chaque fois que le roi s'est laissé interpeller par le prophète, et évidemment ils pensaient à David, hein, maintenant qu'il veut dire à David, tu as mal agi quand tu as fait tuer le mari de ton amant, hein, de sa déhure et tout ça. Hein. Et quand le roi a écouté le prophète, le pays a prospéré. Mais c'est simplement c'est que le roi, évidemment, ce n'est jamais agréable de se faire critiquer, de se faire remettre en question. Car la tentation du roi, ça a été d'assister les prophètes. Et de dire, les prophètes c'est très bien, mais de susciter des faux prophètes, c'est parfois un prophète de mensonge, la définition du prophète du mensonge, c'est celui qui dit au roi comme t'es grand, comme t'es formidable, parce que tu fais. C'est un prophète qui n'est plus là pour dire une parole critique au nom de la justice, mais dit simplement une parole qui vient conforter le roi. Et chaque fois que les rois ont suscité des faux prophètes, le pays a décliné. Donc que ce pouvoir d'interpellation, ce pouvoir de contestation appartient à l'équilibre et la justesse d'un gouvernement équilibré. Je vais vous donner un exemple qui pour moi est symptomatique. Mettez-vous à la place Deutéronome 6. Celui qui a écrit les livres des rois. Il a, dans ma Bible, il y a roi 1, roi 2, les deux livres des rois, ça fait 60 pages. Il a 60 pages pour raconter 5 siècles d'histoire. 50 pages, 5 siècles d'histoire. Aujourd'hui, les bouquins d'histoire, c'est plutôt 800 pages pour raconter 10 ans, hein. Je veux dire ça. C'est que, vous pouvez imaginer que, le scribe, qui a écrit les délits des rois, a dû faire un travail de sélection drastique pour dire qu'est-ce que je raconte et qu'est-ce que ça ne raconte pas. Il avait de quoi écrire 5000 pages. Il avait 60 pages à sa disposition. Donc, il a dû faire une sélection. Et parmi toutes les choses qu'il n'a pas racontées, il y a eu notamment une grande bataille dans l'Antiquité, qui a été menée par le roi Akab, qui a été une coalition contre le roi d'Assyrie qui s'appelait Sanmanassar III. C'était la bataille de Karkar en 851 avant Jésus-Christ. 853, pardon. Akab, le roi biblique, a été d'une coalition où il y avait 3900 chars, 2000 cavaliers, 1000 sabots, qui sont rentrés en guerre contre le roi d'Assyrie et qui a remporté une victoire. Une grande victoire de l'Antiquité, le livre des rois n'en parle pas. Il n'y a pas la place. En revanche, le livre des rois consacre tout un chapitre à l'épisode de la vigne de Naboth. L'épisode de la vigne de Naboth, pour affecter votre mémoire, c'est le roi avait son domaine, et vous dans son domaine, il y avait une petite vigne, là, un petit croix, etc., qui était bien pour agrandir son domaine. Et là, mais ça appartenait à un homme qui s'appelait Naboth. Le roi revoit Naboth en disant « Vends-moi ta vigne ». Naboth dit « Non, la vigne de mes parents, je ne vais pas la vendre, je la garde pour moi ». Le roi rentre chez lui, un peu déprimé, parce qu'on a refusé de vendre sa vigne. Ça n'a pas de vigne, vous vous rendez roi ou quoi ? C'est le roi qui se débrouille pour récupérer sa vigne. Ah oui, bonne idée. Donc, il fait une calomnie contre Naboth, il le fait tuer, et il récupère sa vigne. À ce moment-là, il y a Élie, le prophète, qui va le voir, et qui lui dit « Au roi, tu as mal à vie ». Pour un roi récupérer un petit bout de vigne, c'est vraiment le truc le plus ordinaire qu'on puisse imaginer. Je veux dire, c'était, si on ne peut pas récupérer un bout de vigne, ça sert à quoi d'être roi ? Eh bien, la Bible consacre tout un chapitre à la parole du prophète, qui est allé voir Akab et qui lui a dit « Tu n'avais pas le droit de prendre ce petit bout de vigne ?» Et en revanche, il parle zéro de la bataille de Karkar, qui a réuni 3900 chars, 2000 cavaliers, 1000 chameaux, contre le roi d'Assyrie. La parole du prophète, c'est celui qui va dire au roi, t'as pas le droit d'aller prendre une vie qui n'est pas à toi. Donc, le prêtre, le prophète et le roi, les structures, c'est pas des pouvoirs qui permettent une interprétation de liberté. Et si je vous ai dit cela, c'est parce qu'aujourd'hui, eh bien, il me semble que si on essaye d'actualiser les habitants qui sont dit comment cette distinction-là peut jouer au péré aujourd'hui, eh bien, il me semble qu'un des lieux tenu par la parole, c'est la parole de contestation, c'est la presse. La presse est justement ce lieu où une parole peut être dite, y compris une parole qui peut être parfois, qui peut gratter un peu, qui peut être un peu dérangeante. Et je voudrais, en conclusion, en dernière partie de mon propos, dire quelques mots sur mon travail à réforme, hein. Donc un journal, tous les semaines, hebdomadaire protestant de l'actualité. Qu'est-ce que ça veut dire, une parole protestante de l'actualité, hein. Alors, surtout qu'on est une petite équipe, on a 45 journalistes, la question qu'on se pose toujours, c'est, dans l'actualité, qu'est-ce qui fait sens pour notre monde, et qu'est-ce que de l'étude, et qui sera totalement oublié demain. L'histoire de Benzema et Léry, ça c'est l'étude, hein, tout le monde s'en fout. On regarde l'histoire, c'est rien. Les journaux en parlent beaucoup, hein, mais on regarde l'histoire, c'est rien. Hein. Et donc, on est obligé d'avoir ce travail, et moi je vais vous dire un truc qui m'a fait marquant, ça fait pas si longtemps, ça fait que que 5 ans que je suis à la tête de réforme et que je pose cette question, et comme tout le monde, avant ça, par paresse, le soir, il m'arrivait de me planter devant le journal télévisé à 8h. Depuis que je fais la réforme, et depuis que toutes les semaines, je me pose la question, qu'est-ce que je fais d'insulter ou pas, je ne peux plus regarder sur la télévision, tellement je trouve que c'est creux, vide et nul. Mais je ne peux pas, j'essaie, hein, c'est des torts, hein, je me demande ça, pourtant, je ne peux pas, je ne peux pas plus que devant la télé, je ne peux pas regarder, tellement ça me paraît, comment, à force de me poser la question du sens de l'actualité, je trouve que la façon dont la télévision le fait est absolument pathétique. Alors, qu'est-ce qui fait sens d'actualité, qui est énorme? Comment interroger la société, les gouvernements? Il y a quelques années, les Sous-Debrés, le philosophe, avait fait une allocation qui m'a pas mal marqué au cours d'une rencontre interreligieuse, une rencontre organisée par la communauté de religion. Et les Sous-Debrés disaient, en gros, s'adresser aux religions en leur disant, écoutez, moi, j'ai été conseiller politique du président Mitterrand, j'ai une activité politique, sachez que les politiques, on est enfermés dans des contraintes énormes, qui sont des contraintes d'équilibre budgétaire, des contraintes de vouloir être élu, quand on est au pouvoir, on veut être élu, etc. Et que ça nous enferme, etc. Et j'ai, nous, politiques, avons besoin, et ça peut être élu, là, d'une parole extérieure qui nous rappelle un certain nombre de vérités fondamentales, qui nous rappelle le scandale absolu de la fin dans le monde, le scandale absolu du prix du commerce des armes, le scandale absolu des inégalités, la valeur extrême de chaque humain, et dit, nous politiques, nous sommes entraînés dans notre gestion, nous avons besoin que vous nous rappeliez un certain nombre de valeurs fondatrices. C'est-à-dire, et que aujourd'hui, on pourrait dire le scandale des réfugiés. Hein, on a toutes les raisons du monde de se dire qu'on est dans une société qui est en fragilité, qu'on est une société qui est... donc, de ne pas gérer les réfugiés, sauf qu'on n'a aucune excuse de ne pas le faire au nom de l'humanité. Voilà. Et bien, d'une certaine façon, le propre d'une parole, dans le lieu de liberté de parole, c'est justement d'apporter cette parole de contestation par rapport à notre société, parole de liberté par rapport aux politiques. Parole par rapport aux politiques, c'est aussi parole par rapport à l'Église. D'être aussi un lieu où nous puissions dire, on a un rapport avec l'Église, bon, on est totalement dépendant, mais évidemment, on est en lien avec l'Église protestante, et donc on a à la fois, on essaie de se situer sur une ligne de crête entre un devoir de bienveillance et un devoir de critique. Et de savoir comment jouer, enfin on essaie de se tenir sous cette ligne de crête en disant que, mais si jamais nous développons de temps en temps un pouvoir de critique par rapport à l'Église, nous avons bien conscience de le faire au service de l'Église, et que de temps en temps, critiquer quelqu'un, c'est le grand service. Et je voudrais là-dessus peut-être développer un principe qui m'avait beaucoup, beaucoup impressionné, de la part du cardinal Henry Newman. Et donc, cardinal Newman au XIXe siècle, qui était un ancien prêtre anglican, qui se convertit au catholicisme, qui est devenu cardinal. Et à un moment, il avait, il disait, en parlant de l'Église catholique, mais c'est pas très difficile de transposer dans notre propre Église, il disait la chose suivante. Il disait, l'Église tient sur une autorité qui est organisée autour de trois pôles. Il y a le pôle de l'autorité, la hiérarchie sacerdotale, des évêques. Il y a le pôle des théologiens et il y a le pôle du peuple. Donc l'Église, c'est un peuple, des évêques et des théologiens. C'est ça qui fait l'Église. Et dit, chacun de ces pôles, laissé à lui-même, a tendance à diviser. Les évêques ont tendance à devenir autocrates. Les théologiens ont tendance à devenir rationalistes et le peuple a tendance à devenir superstitieux. Et il y a ici, lorsqu'on maintient la tension entre ces trois pôles et entre chacun interpelle et compense et évite aux deux autres de dériver et de tomber du côté de l'essence. Hein. Et donc j'ai essayé de maintenir la tension entre ces trois pôles-là pour une bonne respiration de l'Église. Et bien, d'une certaine façon, mais où est le lieu où les évêques, les théologiens et le peuple se rencontrent, et bien après, c'est un de ces deux-là. C'est là où on interroge les théologiens, c'est un de ces lieux-là où on interroge les responsables de l'Église, c'est un de ces lieux où on interroge aussi le peuple. Et on essaie de faire en sorte que le dialogue s'organise. Alors, le dialogue, parfois, ça frite un peu, c'est-à-dire, parfois, ça se frotte, mais à partir de cette conviction que de ce frottement n'est quelque chose d'épanouissant et de juste à l'Église. Et bien, nous sommes que la presse aujourd'hui, comme parole de contestation, la presse aujourd'hui, comme presse religieuse, comme lieu de dialogue, comme lieu de parole, et en cela, la presse est un des lieux où peut se déployer la liberté, la liberté dans la vie, la signification, la liberté religieuse. Et pour terminer, en conclusion, un commentaire d'un bouc, je m'en ai rabat, pour dire sa liberté. Dans un verset du livre de l'Exode, il est dit, à propos des années sabbatiques. Donc, tous les 7 ans, les Hébreux qui ont été vendus comme esclaves parce qu'ils étaient ruinés auprès de leur maître, devaient être libérés tous les 7 ans. Tous les 7 ans, il y a des lois qui demandaient la libération des esclaves. Et un verset de l'île du Deutéronome en disant, si jamais un esclave dit, je ne veux pas être libéré, parce que finalement je sais bien que mon maître, il est sympa avec moi, puis moi j'ai à manger, puis je suis tranquille, puis j'ai fait comme j'ai mon poids, etc. Et c'est ce qu'il dit, à ce moment-là, on lui poissonnera l'oreille pour marquer le fait qu'il a refusé la liberté qu'on lui a proposée et qu'il a refusé. Et un commentaire dit, pourquoi poissonne-t-on l'oreille? Alors moi, j'avais écrit dans un premier temps que ce verset biblique, c'est poissonner l'oreille comme étant une marque de propriété à son maître. Et un commentaire dit non. Il dit, on poissonnera l'oreille, pourquoi? Parce qu'on punira l'oreille, parce que l'oreille et le membre qui a entendu la parole de Dieu en disant « Vous avez été libéré d'Égypte » et qui a refusé d'écouter ce qu'elle a entendu. Et donc l'oreille sera punie parce qu'elle n'a pas écouté ce qu'elle a entendu « Vous serez libéré ». Il me semble que cette image, ce commentaire, est un beau rappel qui nous dit ce que je disais au début, la liberté, c'est... dans une première approche, c'est sympa, c'est bien, on a un discours, etc. Mais l'histoire et l'écriture nous apprennent que non, que la liberté c'est un vertige, que la liberté c'est un combat, que la liberté c'est une exigence énorme, et que nous sommes appelés à la liberté, mais soyons bien convaincus que cet appel-là n'est pas un appel de facilité, et bien au contraire, est l'appel d'un plus grand exigence. Je vous remercie.